VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Niamey. Bienvenue à notre journal. Élections au Niger, situation inédite dans le pays avec un second tour de présidentiel dimanche où l'opposition déclare à l'avance qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats. Le scrutin oppose le chef de l'État sortant Mahamadou Issoufou à l'ex-président du Parlement Ama Amadou, emprisonné depuis novembre dans le cadre d'une affaire controversée de trafic de bébés et qui a été évacué vers la France pour raison de santé à 4 jours de l'élection. Côté gouvernemental, on dit que la campagne électorale a lieu comme prévu et que le président Issoufou bénéficie du soutien de l'électorat féminin. Plus d'un millier de femmes se sont réunies ce matin à Niamey pour exprimer leur appui au chef de l'État et les organisatrices parlent de 2 millions de voix féminines pour le président sortant. On écoute Moussa Salah Yankori, l'une des animatrices de la réunion.
Nous ferons du porte-à-porte et c'est ce que nous avons fait parce que nous tirons vers la fin de la campagne. Nous avons fait du porte-à-porte. Nous avons parlé un langage de vérité à nos femmes et nous leur avons surtout parlé des actions concrètes promises par le président de la République et tenues. Donc c'est très important pour nous. Nous avons fait comprendre aux femmes que ce monsieur est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. C'est rare qu'il prenne des engagements qu'il ne peut pas tenir. Et nous l'avons vu, nous sommes à Niamey ici, nous avons vu ce qu'il a fait de la ville de Niamey. À Niamey-Niala, maintenant, il y a des zones où vous vous perdez hein, dans votre propre quartier. Quand vous sortez un tout petit peu, pour le retour, c'est un problème, vous ne vous retrouvez plus. Tellement c'est bien aménagé, tellement Niamey a s'est métamorphosé. Donc c'est toutes ces raisons qui nous ont amenés spontanément à nous regrouper et à venir le soutenir comme un balai, des tiges de balai attachées.
Moussa Salah Yankori, une des organisatrices du meeting pro Issoufou à Niamey, propos recueillis par notre envoyé spécial Bagassi Koura. Élection au Bénin maintenant, le Premier ministre sortant Lionel Zinsou et l'homme d'affaires Patrice Talon s'affrontent dimanche au second tour de la présidentielle qui désignera le successeur du chef de l'État Thomas Boni Yayi qui se retire après 2 mandats conformément à la Constitution. Les précisions de John Lyndon.
33 candidats, un record, se sont présentés lors du premier tour de cette élection qui s'est déroulée dans le calme le 6 mars. Le banquier d'affaires franco-béninois Lionel Zinsou est arrivé en tête, suivi de très près par l'ex-roi du coton, Patrice Talon, 27,11% contre 23,52%. Monsieur Talon, un self-made man de 57 ans, devenu un des plus influents entrepreneurs du pays, bénéficie pour le second tour du précieux soutien de 24 candidats au premier tour, dont Sébastien Ajavon, l'autre homme d'affaires candidat qui a fait fortune dans l'agroalimentaire et qui s'est imposé comme le troisième homme en obtenant 22% des voix. Mais au Bénin, les consignes de vote ne sont pas toujours suivies par les 4,7 millions d'électeurs.
Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, l'ex-première dame ivoirienne, sera jugée le 25 avril pour crime contre l'humanité devant la cour d'assises d'Abidjan. C'est ce qu'a annoncé jeudi à l'AFP maître Mathurin Dirabou, un des avocats de la défense. Considérée comme une protagoniste majeure de la crise post-électorale ivoirienne, l'ancienne dame de fer à la personnalité très controversée est également poursuivie pour crime contre l'humanité par la CPI, la Cour pénale internationale. Mais le gouvernement ivoirien refuse son transfert à la haie, malgré plusieurs requêtes de la Cour, affirmant être en mesure d'assurer à l'ex-première dame une justice exemplaire en Côte d'Ivoire même. Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, actuellement jugée à la haie à la CPI, a par ailleurs été déjà condamnée en mars 2015 à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État lors de la crise post-électorale de 2010-2011.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Burundi, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, comme nommé facilitateur dans la crise burundaise, est en visite à Bujumbura depuis hier, à son programme des consultations avec le président Pierre Nkurunziza sur la relance du dialogue inclusif inter-burundais. L'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU ont du mal à promouvoir une solution consensuelle de la crise, le gouvernement burundais refusant de négocier avec les opposants qu'il qualifie de putschistes. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura. Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Arrivé jeudi de la capitale ougandaise, Kampala, où il s'est entretenu avec le président Yoweri Museveni, mandaté par l'Union africaine pour assurer la médiation de la crise burundaise, l'ancien président tanzanien va s'entretenir ce vendredi avec le président Pierre Nkurunziza. Kappa connaît parfaitement la crise burundaise pour avoir été aux côtés du médiateur Nelson Mandela qui a réussi à faire signer les protagonistes burundais l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha en août 2000. Le parti présidentiel s'était réjoui au début de ce mois de la nomination de l'ex-président tanzanien Benjamin William Mkapa pour participer à l'équipe de facilitation car le président ougandais Yoweri Museveni, actuel facilitateur, était trop occupé, avait déclaré Pascal Nyabenda, président du parti CNDD-FDD au pouvoir, ajoutant que Mkapa a plus de temps pour écouter les citoyens burundais. Depuis la candidature contestée du président Pierre Nkurunziza, Bujumbura et certaines contrées de l'intérieur du pays sont le théâtre des violences qui ont fait plus de 400 morts et poussé plus de 240 000 Burundais à l'exil vers les pays voisins. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour élire le premier président d'une nouvelle république, instituée par un changement de constitution ayant permis au président Denis Sassou Nguesso de se représenter. 9 candidats sont en lice. Monsieur Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans au pouvoir à Brazzaville, a promis à ses partisans de l'emporter dès le premier tour. Mais les choses se présentent différemment que lors des scrutins de 2002 et 2009, où il avait obtenu respectivement près de 90% et 78% des suffrages pour rester à la tête de ce pays d'Afrique centrale de 4,5 millions d'habitants. L'opposition avait alors largement boycotté ces scrutins. Cette fois-ci, après avoir tenté en vain de faire barrage au changement de constitution, elle a décidé majoritairement de participer à l'élection. Préparatif des élections RDC, que dit la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, sur la tenue ou non de l'élection présidentielle de 2016, alors que la communauté internationale réclame un agenda crédible pour la tenue de ce scrutin? Eh bien, à l'issue d'une visite à Washington et à New York, voici la réponse du président de la CENI de la RDC, Corneille Nangaa, au micro de Tatiana Mosso.
Est-il encore possible d'organiser les élections en novembre 2016? J'avais dit oui et non. Oui, la condition pour qu'on organise les élections en 2016 serait que nous, les acteurs, se mettent d'accord et qu'ils disent « oublions la question du fichier ». Allons encore aux élections avec les fichiers de 2011. Ça veut dire qu'acceptons d'aller à ces élections sans plus ou moins 10 à 12 millions de jeunes qui ont atteint la majorité entre-temps. Allons aux élections avec plus ou moins 2 millions de morts dont les noms doivent être sur la liste. Si les acteurs se mettent d'accord sur ça et qu'ils disent que la CENI organise ces élections, nous irons. La question, il faut travailler sur les fichiers. Et en travaillant sur les fichiers, ça va nous demander un peu plus de temps. Est-ce que les élections vont donc être organisées au-delà de novembre 2016? Oui, en effet, c'est ce que nous allons demander. Nous allons pour cela faire une requête à la Cour constitutionnelle.
Vous allez demander
pour que nous
un
ayons
report.
Une petite extension. Mais la question n'est pas que cette extension ne devrait pas être éternelle. Il faut que cette extension soit limitée dans les temps, en tenant compte des exigences.
Corneille Nangaa, président de la CENI de la RDC. Et puis au Cameroun, 89 condamnations à mort pour terrorisme ont été prononcées contre des membres du groupe islamiste nigérian Boko Haram depuis un an. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui de sources judiciaires. Des condamnations prononcées par le tribunal militaire de Maroua, dans l'extrême nord. Actualité américaine pour terminer, le président Barack Obama sera à la Havane dimanche pour une visite historique. Les liaisons postales directes entre les deux pays ont été rétablies après 53 ans d'interruption et le chef de l'exécutif américain en a profité pour adresser une lettre à une dame cubaine, Eric Manirakiza.
La lettre du président américain est adressée à Eliena Yarza, une cubaine de 76 ans qui a fait part de sa joie à l'annonce de la visite présidentielle et a invité Barack Obama pour un café chez elle. La réponse présidentielle est partie ce mercredi par le premier vol postal direct entre les États-Unis et Cuba. Le service de courrier entre les deux pays n'était plus assuré depuis 1963, peu après l'entrée en vigueur de l'embargo américain sur Cuba. La Maison-Blanche a diffusé une copie de la missive avant de la placer dans une enveloppe dûment timbrée, espérant qu'il arrivera sur l'île avant Barack Obama. Le président américain est attendu dimanche à La Havane, accompagné de sa femme et de ses deux filles. Sa visite va consacrer de manière spectaculaire le rapprochement entre Washington et La Havane. Après un demi-siècle de tensions, les deux pays ont rétabli leurs relations diplomatiques en juillet 2015.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.